There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Donc, qui je suis aujourd'hui avec tout ça, moi j'ai l'impression d'être quand même beaucoup moins forte qu'avant, quoi. D'être beaucoup plus sensible, de plus avoir de sens à ma vie, et à la fois sur le sujet de la mort, par exemple, je sens que ça peut pas forcément trop m'atteindre. Enfin, si des membres de ma famille décédaient, si. Mais le reste...
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour le faire causer de son expérience de la paternité. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Sixtine.
Hello Fabrice.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Bienvenue dans l'histoire de Daron.
Ouais.
Même si tu n'es pas du tout daronne.
Pas du tout.
A priori pas prévu. T'as quel âge ?
J'ai 23 ans.
Pas prévu tout de suite, je sais
non.
pas. Tu feras ce que tu veux de ta life, hein, après tout. T'as bien raison. T'as 23 ans aujourd'hui, effectivement. Et je voulais rebondir... j'ai rebondi sur Discord, sur un témoignage, sous le témoignage d'Aveline.
Oui.
Qui racontait son chemin et son voyage avec ses deux filles adolescentes qui ont tenté à plusieurs reprises de se suicider, etc. Et vraiment dur pour elles. Et un témoignage que je vous invite à aller écouter, que je vous mettrai dans les liens si ça vous intéresse. Et t'es venu raconter toi ton histoire qui m'a touché, où je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant d'avoir Sixtine. D'abord tu m'as dit j'ai rien à foutre dans l'histoire de Daron puisque
je suis pas daronne
et en fait je te disais que j'aimerais bien faire en sorte d'avoir de plus en plus d'enfants ou de grands enfants qui viennent raconter, même si là on va pas raconter ton histoire à toi de ton propre daron ou de ta daronne, mais d'un drame en fait que t'as vécu à l'adolescence. T'avais 15 ans, c'est ça ?
J'avais 15 ans, ouais.
Où
2016,
tu...
ouais.
2016, où t'as ta meilleure amie, c'est ça ?
Meilleure amie depuis toute petite.
Qui s'appelle Juliette.
Exactement.
A mis fin à ses jours. Et tu m'as d'abord dit, écoute, je suis pas tout à fait prête à venir en parler. parce que c'est une histoire qui est encore dure pour toi, en tout cas, je l'ai senti juste à travers ton message. Et là, je sens que tu as déjà l'émotion qui monte.
Ouais, j'ai déjà les larmes. Non, mais c'est parce que c'est juste hyper bizarre que quelqu'un qui ne connaisse pas son histoire me dise « t'as vécu un truc ». Enfin, c'est bizarre. J'en ai toujours parlé qu'avec des gens qui savaient ce qui s'était passé, quoi.
Qui l'avaient vécu avec toi, tu veux dire ? Bah oui, mais tu l'as raconté sur Discord et j'imagine à quel point ça a dû être traumatique pour toi, quoi.
Ouais, bah oui. Non, mais voilà, du coup, c'est pour ça que l'émotion monte, là.
D'expérimenter la mort d'une amie si proche, si jeune, ça doit faire un truc.
Très bizarre, ouais. Ouais. On se construit pas pareil que tout le monde, je pense.
Et donc ouais, je t'avais proposé de venir pour venir raconter aussi ce qui s'est passé pour toi de l'autre côté, finalement, du miroir. Et en fait, je me demandais un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait quelques mois qu'on échange. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est le moment, je suis prêt à venir en parler ?
T'es pas prêt, hein. Entre-temps, je suis tombée en dépression.
Ah, je suis pas prêt à ton récit, c'est ça ?
Ouais.
Oh, si, vas-y, let's go.
Non, non, mais entre-temps, je suis tombée en dépression, tout simplement.
Entre le moment où t'as posté...
Ouais, enfin, j'étais en plein en train de tomber en dépression, en fait, à ce moment-là.
Ok.
Du coup, c'est pour ça que je me sentais pas du tout.
Ah oui.
Et donc, entre-temps, j'ai revu ma psychiatre et ma psy... Et je vois une psychologue et je fais une thérapie pour la première fois.
De ta vie ?
Alors qu'avant, je voyais juste une psychiatre. De temps en temps, quoi. Et donc, là, je suis beaucoup plus forte et armée, notamment, je prends des antidépresseurs. ça arme pas mal.
Vive la drogue.
Ce qui me permet de... Ouais, de... Là, je me sens plus prête, plus forte, ouais.
Est-ce que la dépression était liée à ton histoire avec Julie ? Non, c'est juste... La vie de vingtenaire, c'est chiant un peu de début de vingtaine, là, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est que j'étais en freelance et que ça allait pas trop. J'étais à l'étranger, j'avais plus mes repères. C'était plus une espèce de petit burn-out avec manque de confiance en soi. Donc rien à voir.
Et ça va mieux ?
Ça va, ouais, ça va mieux.
Ok.
Sur la remontée, là.
C'est cool. Bah, merci beaucoup de venir parler de cette histoire ici. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir partager cette histoire ?
C'est marrant, ça fait quand même quelques années que tout ça, je l'ai derrière moi et que je veux plus forcément en parler.
Ok.
Alors, il y a plusieurs choses et c'est le témoignage d'Aveline, en fait, qui m'a bouleversée parce que elle est tellement forte. Je l'ai réécoutée ce matin. Enfin, j'ai pas pu tout écouter. C'est énorme ce qu'elle vit. Et je pense que j'ai aussi... Alors, je sais pas si ton podcast est écouté par des adolescents, mais j'aimerais trop que des adolescents puissent entendre ça.
En tout cas, je vais faire en sorte de le faire savoir sur les réseaux, etc. De faire tourner à l'épisode en particulier à des ados. Ouais.
Et pareil, pour des parents qui ont des enfants qui vivent des choses difficiles. Enfin, j'ai pas de clé, mais juste une histoire particulière, différente.
Bon, sans doute des clés.
Ouais, dans ton récit. Peut-être. Je sais pas.
En tout cas, je trouvais ça hyper intéressant de t'avoir toi et d'avoir ton récit de ce qui s'est passé à côté d'être à côté de cette fille, quoi, qui était effectivement ta meilleure amie, quoi, c'est ça ?
Ouais, parce que.
Vous connaissiez depuis longtemps ?
On se connaissait depuis le CP, le CP, mais en fait même avant parce que sa maman gardait ma petite sœur chez elle.
Ok. Vous étiez pas rencontrés genre depuis un an ou deux, quoi.
On s'était rencontrés avant effectivement.
C'était une amie quoi.
Ouais.
Ok.
On est devenu amis en CP. Bon, il y a eu des petits rebondissements la primaire, mais.
Toujours.
Ouais.
Ok. Par où tu veux commencer ? Je vois que tu as pris plein de notes là.
Ouais.
Je sais pas trop si à quel point tu as envie que je te guide, à quel point tu as envie de suivre tes notes. Comment tu veux le faire ?
Mais je veux bien que tu me guides et que tu me poses des questions.
Ouais.
Et puis peut-être qu'à certains moments, parce qu'effectivement, il y aura des petites choses. J'ai juste pensé à des questions que potentiellement tu me poserais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai oublié beaucoup de choses entre les 6 mois avant son décès. Et je n'aurais pas trop dire, peut-être 3-4 ans après son décès. Tout à l'heure, j'ai appelé ma maman.
3-4 ans après, t'as fait un blackout.
Non, j'ai pas fait un blackout, mais par rapport à elle, à tout ça, à cette histoire, j'ai oublié beaucoup de choses. Ce matin, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit comment j'étais à ce moment-là, comment je l'ai pris. On a recreusé un peu le truc pour que je me remette dedans et que je me souvienne. Parce que donc, pourquoi est-ce qu'il y a quelques mois, je ne pouvais pas te parler de ça? C'est que je savais qu'il fallait que je me replonge dedans, que j'appelle ma maman pour lui poser ces questions-là, que potentiellement, je relise. J'ai trois carnets, j'ai trois choses devant moi. J'ai surtout un carnet que j'ai commencé au moment de son décès. Et donc, que potentiellement, je relise quelques parties. Et donc, il y a quelques mois, quand j'étais vraiment dans le plus bas de la dépression, je ne pouvais pas mettre ma tête là-dedans. Là, je peux, quoi.
T'as la sensation que c'est une forme de catharsis pour toi de venir en parler, là ?
Ouais, un petit peu.
T'es toujours empreinte de ce deuil. On en parlait avant, là, juste avant de démarrer, par rapport à un tatouage, une idée de tatouage et tout, qui est en rapport avec sa mort, quoi.
Mais en fait, c'est très bizarre. Je pensais, tu vois, en parler en fin d'interview, c'est que aujourd'hui, pendant quelques années, elle a été hyper imprégnée en moi, elle était avec moi tout le temps. Enfin, je faisais ma vie avec elle, pour elle, c'était tout le temps.
Pour elle ?
Ouais. Ouais. Et depuis quelques années, je saurais plus trop dire quand.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Elle est plus du tout là, quoi. Okay. C'est comme si tout ça n'avait pas existé, parfois, je me dis, mais c'est un film.
Ah ouais, ok.
Ou alors, les gens pourraient croire que je suis complètement folle. Bon, je sais pas, hein, pourtant. mais parce que c'est tellement dingue.
C'est à la fois dingue et très banal. Hein. J'imagine qu'il y a plein de gamins qui se suicident, tu vois, et qui ont forcément des meilleurs amis.
Des meilleurs potes. Ouais. On pense
terrible,
pas
quoi.
Souvent aux meilleurs potes dans ce genre de moments. Or, la meilleure pote est la personne qui sait tout de la vie de la personne qui se suicide. Donc, c'est elle qui a toutes les clés.
Donc, t'as beaucoup de clés.
Je suis un double d'elle.
Un double ?
Je suis un double de ces dernières années. Je sais tout.
Et donc tu l'as vu aller de plus en plus mal.
Ouais, sauf que je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais sous son emprise. J'ai tendance à dire que j'étais sous son emprise. C'est bizarre, hein. Pourtant elle était pas méchante du tout. Enfin, c'est pas... Mais c'est que j'avais le droit de rien dire. Et que c'était une forme d'emprise qui était créée insidieusement autour de moi.
Tu veux dire qu'elle t'empêchait de parler de son mal-être ?
Elle me disait tout le temps, n'en parle pas, n'en parle pas, n'en parle pas. Donc en fait, insidieusement, tout ça se crée.
Au fond de toi, t'avais envie d'en parler ?
Parfois,
ça t'aurait plu ?
Ouais. Ah, même beaucoup.
Ça t'aurait soulagé sans doute, parce que j'imagine que t'étais toute seule à porter ça, c'est ça ?
En fait, il y a un truc bizarre, mais c'est que son décès, ça n'a pas été tant une grande tristesse sur le moment, ça a été plus un soulagement. Et c'est horrible de le dire.
Non, mais c'est pas horrible.
Ouais. Mais au moment de son...
C'est pas horrible de dire ça, tu sais.
Ouais.
T'as de la culpabilité, là.
Bah ouais, parce que...
C'est pas ton histoire. Je comprends que t'en es. Mais ouais, c'est pas horrible.
Ouais. Bah, c'est horrible de dire que j'étais pas si... Enfin, que une partie de moi me disait... enfin, ou merci, ou je suis soulagée, quoi.
Bah, tu viens d'expliquer pourquoi, hein.
Ouais.
Elle venait te faire peser des trucs qui étaient plus lourds que toi, quoi.
Mm.
Sur tes petites épaules.
C'est ça.
De petite meuf de 15 ans, quoi.
J'étais tellement immature pour tout ça. Enfin, je l'ai vécu.
T'avais 15 ans.
Oui, non, mais voilà.
Comment tu veux faire autrement ?
Non, mais c'est ça. Oui. C'est quand même fou de faire porter ça. Enfin, bref. Mais oui, donc, c'était un soulagement à tel point que à son enterrement, j'ai dit un discours et que, clairement, je disais merci. Merci de ce cadeau que tu m'as fait. De me faire vivre ça, là, cette souffrance, et à la fois, au revoir et bon vent, quoi. Mais c'est pas... C'est pas
bon débarras.
Oui,
c'est
voilà.
C'est ça que tu veux dire.
Oui.
Ouais.
C'est... Moi, je savais qu'elle était mieux autre part et pas sur Terre. Donc, je pense que... C'est hyper bizarre de dire ça, mais... Je pense que je suis l'une des seules de tous ses proches qui a compris son acte et qui n'avait pas forcément de problème avec ça sur le moment. Quoi.
Pardon. Je me fais choper par ton émotion. C'est pas du tout la bonne façon de faire.
Je me recentrer deux secondes. Je ferais que de pleurer. Là.
Non, mais moi, tu peux pleurer autant que tu veux, mais il faut juste que je fasse gaffe, moi, à ma posture, tu vois, par rapport à... Sinon, si on va se mettre à pleurer tous les deux, ça va être chiant. Hein.
T'inquiète pas. Ouais, j'avoue. Bon.
Non, mais t'empêches pas de pleurer, hein, surtout pas. Hein, c'est juste... faut que je fasse... Enfin, ça m'arrive parfois de trop me mettre dans les émotions des gens, tu vois, et j'essaie de faire attention à ça, parce que sinon, je sers plus à rien, moi, je suis là, bon, très bien. Oui, donc tu disais que tu étais l'une des seules de son entourage, enfin, tu es même peut-être la seule, tu crois, de son entourage à avoir compris son geste.
Alors, je suis pas la seule, parce que j'ai appris il y a pas longtemps que, et là, c'est ça qui peut me faire pleurer, que ma petite sœur, qui à ce moment-là avait 10 ans, bah, elle aussi tout à fait compris la chose.
Comment ?
Je sais pas.
Vous en parliez ?
Ben, pas trop. Moi, j'ai toujours eu peur pour elle après qu'elle, elle fasse le même acte. Et en fait, il y a pas longtemps, donc j'ai appris ça. Et du coup, pendant toutes ces années, j'étais à mille lieues de savoir qu'elle le ferait pas du tout parce que, en fait... Enfin, je sais pas, elle était pas traumatisée de ça, quoi. Ouais, c'est hyper bizarre. J'ai appris il y a genre 2 semaines.
Ah ouais ?
Ouais. Et c'est même pas elle qui me l'a dit, c'est ma maman qui m'a dit « Ah, mais non, mais en fait, elle l'a pas du tout mal vécu. Elle savait que c'était comme ça, que c'était la vie de Juliette et que ça se terminait comme ça et que c'était le dessin, quoi. » Et là, je me suis dit, mais quelle maturité à 10 ans de enfin, je sais pas si c'est de la maturité ou si c'est de l'insouciance. Voilà, c'était une enfant. Et bon, bref. Du coup, bon, j'étais pas toute seule, il y avait elle aussi.
Il y a aussi un truc, j'ai l'impression, où on n'est pas très bon en Occident par rapport à la mort, tu vois. Où on a tendance à voir ça comme un... Alors certes, c'est très triste parce qu'il y a plein de... y a des gens qui, il y a des gens qui partent et en fait ils sont plus dans ta vie après, donc d'où le deuil, etc. Mais c'est vrai que ailleurs, dans d'autres pays, on a un rapport tellement plus détendu à la vie, à la mort, où bah ok, c'est un passage en fait. Tu vois, et Juliette, bon bah elle a eu un passage de 14 ans sur la planète et en fait bah, elle reviendra peut-être sous une autre forme, sous une autre. Et de ce fait, ça soulage aussi vachement plus le rapport. Et peut-être que ta sœur, tu vois, à 10 piges, elle avait peut-être compris ça aussi, tu vois, ce truc de non, bon, en fait, bon, bah voilà.
Je pense que je lui avais dit aussi. Je l'ai vachement rassurée là-dessus quand Juliette est partie. Je savais qu'elle était très triste parce que Juliette passait beaucoup de temps chez nous. Elle venait passer tous ses week-ends et elle avait ses habitudes à la maison. Ma mère achetait des cracottes pour elle alors que personne n'en mangeait à la maison, quoi. C'était vraiment. Bref, je sais plus où je suis partie. En fait, moi, Juliette m'a préparée à ça. Et c'est là que je dis aussi que j'étais un petit peu sous une emprise. J'étais pas consciente vraiment de ce qui pouvait se passer. Il y a, en gros, quelques semaines avant qu'elle, 2-3 semaines avant qu'elle décède. On était dans un petit parc pour enfants et elle me dit tu sais, quand je partirai, il faudra que tu sois forte. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, non, mais parce que peut-être qu'un jour, comme ça, je partirai, quoi. Il faudra que tu sois forte pour les autres. Je lui ai dit, oh, ok, bizarre, mais soit. Effectivement, un jour, peut-être tu partiras, quoi. J'avais pas du tout conscience que c'était un truc auquel elle pensait, quoi. Et du coup, je pense qu'elle m'a préparée et que moi, au moment du décès, j'ai aussi dit à ma petite sœur, bah, en fait, c'était son destin. C'était,
et donc elle l'a pris...
Elle l'a pris au pied de la lettre à 10 ans, ouais.
Ok. Donc finalement... T'as fait le taf aussi vis-à-vis de ta petite sœur, quoi.
Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais hyper peur pour elle. Pas pour quelqu'un d'autre. Pour elle. Pourtant, j'ai une grande sœur aussi. Petite sœur.
Comment t'as vu Juliette aller de plus en plus mal, c'est ça? T'as été un peu... Tu disais que t'étais son double.
Ouais. En fait, donc c'est ce que je disais, c'est que je l'ai pas forcément vue aller de plus en plus mal parce que je vivais tout le temps avec elle. Et donc, en fait, c'est comme, par exemple, quand tu regardes quelqu'un vieillir tous les jours à tes côtés, tu te rends pas compte qu'il vieillit. Or, si tu le vois pas pendant 10 ans, tu te rends bien compte qu'il a vieilli. Et c'est vraiment la même chose. Et c'est pour ça que je dis que ça a été insidieux, tout ça. C'est que je vivais tout avec elle et que pour moi, c'était la normalité qu'elle soit comme ça. Alors, effectivement, je me rendais compte quand même qu'elle allait pas bien. Mais j'étais aussi pas dans un schéma très sain à ce moment-là, quoi. Donc, ouais. Et
t'étais dans un schéma pas très sain, tu veux dire quoi?
En fait, elle est décédée à cause de l'amour. Et pas que, mais surtout à cause de l'amour. Et je pense que notre amie tournait beaucoup autour de l'amour qu'on pouvait avoir pour des petits copains, quoi. Donc c'est pour ça que je dis pas très sain. C'est que, alors moi, au début, je m'en fichais complètement. Et que elle me parlait tout le temps de ses amoureux, quoi. Et que moi, du coup, petit à petit, je me suis aussi fait je me suis aussi créé une douleur, quoi, un amoureux qui me rendrait malheureuse. Donc moi aussi j'allais pas très bien à ce moment-là, mais pas à son point du tout, juste j'étais amoureuse d'un garçon qui voulait pas de moi, donc forcément ça faisait un petit peu mal, quoi.
Bah, en même temps, un peu classique à 15 piges,
mais voilà, exactement,
un truc un peu romantique. Ça, c'est le patriarcat encore, hein, qui nous raconte de la merde, ça. Il y a un truc un peu romantique dans le fait de souffrir, souffrir de l'amour, quoi. Ok. Et donc, tu crois aujourd'hui que si elle a décidé de mettre fin à ses jours, c'est en partie Ou ça a peut-être été un déclencheur?
En fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. En fait, c'est très bizarre. Et moi, sur le moment, je pensais que c'était pour ça. Et avec les années, on s'est rendu compte de certaines choses. Par exemple, sa maman s'est souvenue que, qu'à 9 ans, elle lui avait dit qu'elle mourrait comme Juliette dans Roméo et Juliette. Mmh. Et donc, c'était déjà un truc autour de l'amour, quoi. Qu'elle mourrait de souffrance de amoureuse.
À 9 ans.
Ouais, à 9 ans. Je me suis aussi rendu compte d'une autre manière via des carnets personnels sur lesquels elle avait écrit, auxquels j'ai eu accès il y a pas très longtemps, il y a je sais pas, 1 ou 2 ans.
Ah ouais.
2 ans peut-être. Alors je connaissais ces carnets presque par cœur. Il y avait une chose que je connaissais pas.
Est-ce que tu lisais ces journaux intimes en temps réel, c'est ça? Enfin, vous les partagiez comme adolescence, quoi.
Bah, en fait, ils étaient toujours ouverts sur son bureau. Et je voyais les pages se tourner, des nouvelles choses écrites. Parfois, je les feuilletais un peu, mais en fait, j'avais pas besoin de les lire parce que je connaissais le contenu.
Oui.
C'est ce que je vivais avec elle tout le temps. Ouais, il y a quand même un truc que j'ai découvert dans ces carnets, c'est qu'elle écrivait des lettres en anglais, elle parlait assez bien anglais, à un espèce de dieu. Et là, c'est vraiment quelque chose que je connaissais pas d'elle. Elle m'avait posé quelques questions sur la foi, elle venait pas d'une famille croyante, moi si. Elle m'avait posé quelques questions sur la foi, mais je n'imaginais pas qu'elle parle à un espèce de dieu en anglais, à qui elle lui demandait de faire en sorte qu'elle aille mieux.
C'était un dieu qu'elle s'était inventé, ouais. C'est ça? Ok.
Enfin, je crois. Mmh. Du coup, je sais pas trop.
Brad Pitt.
J'ai le nom du dieu, mais j'ai pas envie de le dire parce que. Bon, voilà.
Non, mais tu vois, je m'imagine le truc adolescent de. Ah mon dieu, Brad Pitt. Non, peut-être pas Brad Pitt quand vous aviez 15 ans.
Non. C'est même pas un nom très. Enfin, je sais pas d'où ça vient vraiment.
Ok. Mais... C'est un dieu qu'elle a inventé, quoi.
Ouais.
C'est pas une personne réelle qu'elle aurait déifiée, quoi.
Et c'est pas du tout un dieu qui a existé dans la mythologie. Mmh. Enfin, c'est.
Ok.
C'est un prénom lambda.
Ok.
Bref. Et du coup, là, je me suis demandé, depuis quelques années, je me demande s'il n'y avait pas une pathologie un peu plus lourde, quand même, que juste un malheur d'adolescente. Quoi.
Elle était suivie par un docteur, des docteurs.
Ouais, mais elle leur disait pas tout. Elle leur disait pas la vérité. Mmh. Ouais.
C'est dur. Hein.
Elle était toute seule dans son truc et elle m'a embarqué. Quoi. Voilà. Mmh.
Comment tu vis avec le recul de t'être fait embarquer comme ça?
Moi, c'était l'une des meilleures périodes de la vie et à la fois la pire, parce que ça a été une sorte de libération, mais j'ai plus jamais retrouvé quelqu'un avec qui je m'entendais aussi bien. Donc, je suis très contente d'avoir été embarquée dans... Enfin, très contente. Ouais.
Oui.
Je sais pas si on peut dire. Ouais. Bref. C'est.
Non, mais je trouve que on s'autorise pas assez à vivre des émotions et des sentiments ambivalents, tu vois.
Ouais.
Et en fait, voilà un très beau sentiment ambivalent. C'était à la fois super et en même temps dramatique, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. En fait, été dramatique après. C'est après que je me suis rendu compte de toute la charge qu'elle m'avait fait porter. Sur le moment, moi, c'était ma meilleure amie et on était... voilà, en fait. Donc, c'était trop bien.
Et de ce fait, t'as jamais osé en parler à des adultes autour de toi?
À quel moment
En fait, au moment où tu voyais qu'elle allait pas bien.
En fait, j'en ai parlé une fois à ma mère. C'était un jour où on était donc au lycée, en troisième, je crois. Juliette prend avait une plaquette de cachet dans son sac. Et je me dis, non, mais n'importe quoi. Enfin, là, stop, quoi. Ça suffit. Enfin, elle s'autodétruisait devant moi et ça m'énervait. Donc, bref, je rentre chez moi le soir et j'en parle à ma mère. Et elle me dit, non, mais là, faut que j'en touche deux mots à la sienne parce que nos familles sont amies.
Ok.
Ouais. Et je me dis, je sais pas, elle m'a toujours dit de pas parler de ces choses-là, de pas parler des choses à sa mère. Et à la fois, là, c'est pour sa santé. Donc, ma mère en a parlé à la sienne. Et quand Juliette a su ça, elle m'a fait la gueule pendant quelques semaines, quoi. Donc, ah ouais. C'est là que j'ai tout verrouillé, que je suis redevenue loyale à 100%, même quand il y avait des choses complètement abominables.
Abominable. Tu peux en parler, t'es pas obligé d'en parler. Abominable, c'est beaucoup. C'est pour ça que c'est gros, quand même, tu vois.
Ouais. Ben, du genre où... En gros, elle est décédée le 2 janvier. Et le 2 janvier 2016. Et le 31 décembre 2015. On était en soirée avec des amis et c'est là que tout a tourné au cauchemar. Et donc, il y a un moment où elle est partie dans la cuisine, elle a pris un couteau et elle s'est complètement ouvert les bras, quoi. Donc voilà, c'est des choses abominables. Okay. Ouais. Et elle est partie...
Pendant la soirée, en pleine soirée, comme ça.
Et après, elle est partie s'allonger sur la route. Elle attendait qu'une voiture passe.
Et toi, t'étais à côté? T'étais avec?
Ouais. Je suis arrivée peut-être quelques secondes après. Je sais pas, au moment, je me dis, mais elle est où? Et donc, je vais dehors. Et on l'a cherchée, et je vais dehors, et elle était allongée sur la route. Complètement folle. Tu vois, je rigole parce que c'était sur le moment, c'était à la fois j'arrivais pas à le prendre
au sérieux.
J'étais, mais t'es folle, arrête, reviens. Enfin, je pense que personne n'arrivait à prendre tout ça au sérieux parce que on comprenait pas pourquoi elle allait si mal. Ça n'a aucun sens.
Et t'as jamais compris?
Non. Ouais, et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Peut-être de psychiatrique, ou peut-être depuis son enfance, mais des choses plus profondes.
Oui, qu'elle-même peut-être ne savait pas, quoi.
Ouais, peut-être. Donc voilà, des choses très, 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 très graves, quoi. Devoir s'occuper à 15 ans de sa meilleure pote. Qui s'est tailladé, donc devoir lui faire des bandages un soir de premier de l'an.
C'est toi qui as fait?
Oui. On n'a pas appelé les pompiers.
Il n'y avait pas d'adultes?
Non.
Dans cette Zumba?
J'avais juste un ami qui avait peut-être 2 ans de plus que nous.
C'était
donc,
chez qui cette soirée?
Bah, c'était chez un pote.
Putain, qui avait, ses parents n'étaient pas là, bien sûr.
Peut-être 17 ans, quoi. 16 ou 17 ans. Et ouais. Voilà. Des petites choses comme ça, quoi.
Des petites choses, oui.
Ouais. Et ça, typiquement, bah, c'est arrivé 2 jours avant et je l'ai dit à personne. Et moi, au moment où elle est décédée, en fait, on se faisait... Enfin, moi, je lui faisais un petit peu la tronche.
Oui.
Pour ça, parce que elle était relou, en fait, à faire ces trucs-là, quoi. Ça faisait rire personne. Enfin, elle non plus, hein, mais...
C'est pas pour faire le clown, pour le coup. Hein.
Ouais, mais en fait, on comprenait pas, quoi. Ça m'arriverait aujourd'hui, j'appellerais les pompiers tout de suite.
Oui.
Et on prendrait les choses au sérieux, enfin, ouais, bref. Et donc, on se faisait un peu la tête, et ça, c'est aussi un petit truc que j'ai... Comment Je m'en suis un peu voulu à ce moment-là de lui faire la gueule pour ça.
Ah ouais.
Bah parce que...
C'est relou quand même, le réveillon du 31.
Ouais.
T'es obligé de faire l'infirmière.
Ouais. En fait,
je comprends que tu as envie de poser une limite, tu vois.
Oui, bah voilà. Là, c'est. Ouais, au bout d'un moment, je voulais. En fait, je savais que moi, j'avais de l'impact sur elle. Et je savais qu'au moment où je lui ferais la gueule, peut-être que là, elle prendrait une décision, elle déciderait d'aller se faire soigner ou d'en parler à sa mère, ou voilà. Je savais que j'avais. Que au moment où je lui disais, là, ça suffit, en fait, c'est trop grave. Elle se rendrait compte, effectivement, de la gravité des choses. Effectivement, elle s'est rendue compte de la gravité des choses. Elle n'a pas parlé exactement à sa mère de ça, mais elle a eu une petite discussion avec sa mère.
Le lendemain ?
Oui, le lendemain, ouais. Plutôt sur l'amour et sur... en fait, sa question, c'était à quel moment dans la vie on se sent apaisé ? À quel moment on sent que sa vie a du sens et qu'on n'arrête pas de se tourmenter pour des choses. Et en fait, la réponse de sa mère fut ça fait pas très longtemps que je suis plus très tourmentée. Et en fait, je pense que c'est aussi un petit peu ça qui fait que elle a désespéré de...
Ouais.
De savoir que c'était à 45 ans qu'elle allait bien, quoi. Donc, bon, avec le recul, on se dit « Pourquoi j'ai dit ça ?» Bon, bref. Et donc, moi, ce 2 janvier, elle m'appelle, en fait, parce qu'elle voulait me voir. Alors ça, c'était toujours comme ça. Elle m'appelait tout le temps parce qu'elle voulait me voir. Et moi, j'étais plutôt très casanière. C'était tout le temps elle qui voulait me voir. Et donc là, je lui faisais la gueule, quoi. Mais enfin, pas vraiment, mais juste pour dire, t'as dépassé la limite. Et en plus de ça, voilà, il y avait eu le nouvel an, j'étais hyper fatiguée. J'étais dans le lit avec ma sœur, on regardait une vidéo. Enfin, je lui dis non, mais bon, bref, demain ou je sais pas. Et en fait, je sais pas. Parce que du coup, pourquoi elle voulait me voir à ce moment-là ? Est-ce que j'aurais pu faire changer les choses ? Je sais pas. De toute façon, ce serait arrivé. En fait, j'ai culpabilisé pendant quelques temps. Et puis après, je me suis dit, non mais de toute manière, si depuis ses 9 ans, elle y pensait, t'inquiète pas que quelques mois après, elle l'aurait fait. Donc bon. Bref.
Oui, tu pouvais pas grand-chose.
Ouais.
C'est sa vie.
Oui, c'est sa vie.
C'est pas la tienne.
C'était sa décision.
Alors ouais, tu dis ok, c'était sa vie, pas la tienne finalement, mais j'imagine à quel point sa mort a dû avoir un impact sur la môme de 15 ans que t'étais, quoi, dans ton rapport à la mort, tu peux m'en parler, et aussi l'impact que ça peut avoir sur la jeune adulte que t'es aujourd'hui, quoi.
Ça, tu vois, typiquement c'est un truc j'en ai parlé avec ma mère ce matin parce que j'ai fait un peu un espèce de black-out de ce truc-là. Et elle m'a rappelé je le savais. Après son décès, en fait, j'ai été très, très, très forte. Je pense surtout grâce à Juliette et grâce à ce qu'elle m'avait dit. Tu seras forte.
Oui.
Et en fait, vraiment, je me le répétais. Enfin, c'était ancré en moi. C'était tu avances, tu es forte. Et il s'est passé ça, mais. Et de toute manière, je devais m'occuper des autres, en fait.
Okay.
Les jours d'après, je devais m'occuper de la cérémonie d'enterrement. Je devais m'occuper de sa mère, de ma mère.
C'est pas ton job, pardon ?
Ben, moi, ça allait. Ouais, non, mais trop bizarre, hein. Je sentais qu'il fallait que je m'occupe des autres et que moi ça allait. De toute façon, elle m'avait donné ma mission, c'était d'être forte pour les autres. Ouais. Non mais la force à cet âge-là, alors que maintenant, je vais te dire, maintenant je l'ai plus, hein, cette force-là. Mais bon, bref.
C'est une force ou c'est une forme de déni ?
Oui, c'est très probablement une forme de déni.
Ce qui est une force certes, mais.
Ouais.
Qui va finir par te péter à la gueule tôt ou tard, hein, quand tu fais un déni, donc bon.
Bah, ça m'a pété à la gueule.
On va en parler.
Et puis j'avais aussi des amis qui ont sombré complètement, et deux amis qui voulaient faire pareil, quoi. Et ça, c'est un truc pareil, j'ai oublié parce qu'il faut, un moment, il faut se protéger. Mais une copine, on était à la gare et elle court dans la gare. Bon, sachant que Juliette a fait ça comme ça, quoi.
Elle s'est jetée sous un train.
Ouais. Okay. On va avoir des couilles. Hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai dû gérer en fait tout ça. J'ai dû gérer aussi tous les messages des gens qui venaient me demander qui elle était, qui venaient me parler d'elle, donc ma mère m'a rappelé ça ce matin. J'aimais pas qu'on s'apitoie sur mon sort. On disait, oh, la pauvre Sixtine, c'est sa meilleure amie qui est partie. En fait, tout le monde me rattachait à elle à ce moment-là. Tout le monde voyait en moi, elle. Il n'y avait pas d'autre figure que moi pour elle.
Ouais.
Donc, j'étais au lycée, la personne qu'on venait voir pour savoir qui elle était, pourquoi elle a fait ça, surtout. Pourquoi elle a fait ça, pourquoi tu ne l'as pas empêchée.
Waouh.
Non mais lol.
À 15 ans en même temps.
Ouais, non mais voilà. Et
pourquoi tu l'as pas empêché?
De toute façon, j'étais pas avec elle à ce moment-là.
Puis j'imagine que tout le monde, il y avait un petit peu, il y a un petit côté gossip aussi. C'est ok, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui.
Les ragots.
Oui.
Les ragots du lycée, quoi.
Et je pense que forcément, en fait, on cherche une raison à tout ça. Sauf que moi, 8 ans plus tard, la raison, elle est encore hyper floue. Je me fais une raison, mais il n'y a pas de vérité absolue sur ce qui s'est passé. Donc,
ce qui est terrible avec la mort et surtout les suicides, je trouve, c'est que ça te renvoie aussi à ta propre situation, à ta propre mort, à ton propre suicide. Tu vois, j'imagine à quel point à 15 ans, tu es au lycée, tu as quelqu'un de ton âge qui s'est suicidé. Alors ça, c'était valable pour toi, mais j'imagine pour tous les gens qui ne la connaissent pas. Il y a un vrai truc de « ok, c'est donc tangible, quoi ».
Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, moi, quand je l'ai appris... C'est ma maman qui était au téléphone avec sa grande sœur et qui me dit « Sixtine, il faut qu'on aille chez eux. Juliette s'est suicidée. » Et moi, je lui réponds « Oui, bah ça va aller. Hein, ça va aller. Je sais pas, elle doit être à l'hôpital, mais ça va aller. Elle est là, elle va revenir. » Et en fait, je savais pas ce que ça voulait dire.
Suicide.
À 15 ans, oui. Je savais pas ce que ça voulait dire, le mot suicide. Je pensais que suicide, c'était tentative de suicide. Et que c'était pas mort. Donc, c'est aussi pour ça que tout ce qui s'est passé avant, je l'ai pas pris trop au sérieux. C'est qu'à la fois, je le voyais pas tel que quelqu'un qui aurait pu le voir de l'extérieur aurait pu se dire c'est grave, j'étais très jeune. Et à la fois, je ne comprenais pas ce qu'était se mettre la mort à soi-même. Donc, bon, bref.
Oui, c'est sûr que si tu n'as jamais été traversé par une idée suicidaire, à 15 ans, tu ne peux pas t'imaginer que c'est possible, quoi, tu vois, pour quelqu'un d'autre.
Ouais, une amie de ma maman s'était suicidée, et du coup, finalement, en fait, j'avais déjà... Mais à ce moment-là, ma mère ne m'avait pas dit le mot, et donc je ne savais pas que c'était ça.
Ok. Ah,
voilà. Bref, mais du coup, à ce moment-là, je me suis sentie à la fois un peu une bête de foire, et les gens venaient, mais adorables, hein, me disaient « si t'as besoin d'aide, je suis là », et moi j'étais en mode « mais j'ai pas besoin d'aide ». Et c'était plutôt « bah toi, si t'as besoin d'aide, je suis là ». Alors, des gens qui la connaissaient pas forcément, quoi, mais j'avais, peut-être le syndrome du sauveur, j'avais besoin de sauver tout le monde, de donner mon temps à tout le monde, c'était sans doute une manière de rattraper aussi peut-être ce que j'avais pas fait avec Juliette.
Ouais, cette culpabilité que tu pouvais avoir.
Ouais.
Quoi.
Bah oui. Okay. Et d'ailleurs, je me suis juré quelque chose par après, c'était que quand quelqu'un me demande quelque chose, de faire quelque chose, de sortir, machin, je n'irai plus jamais non. Toujours oui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, alors maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai avancé là-dessus. Mais pendant longtemps, je ne voulais surtout pas rater... Enfin, je ne pouvais pas dire non à quelqu'un qui m'appelait en me disant « viens... »
Même si tu n'avais pas envie.
C'était fatigant, du coup.
Oui.
Ouais.
C'est beaucoup de responsabilités, encore une fois.
Ouais.
Ok. Qu'est-ce qui t'a... On va reparler de la mort après, mais je me demandais un petit peu... pourquoi le témoignage d'Aveline dont on parlait au début du podcast avait à ce point-là retourné?
Parce que je me suis rendu compte qu'à l'intérieur d'une que j'étais pas à l'intérieur de sa famille et que je pouvais pas imaginer ce que sa mère vivait. Quand tu vois Aveline qui donne beaucoup pour ses filles, voire tout, je crois qu'elle a arrêté de travailler, c'est quand même qui cherche des solutions, etc. Moi j'en voulais beaucoup à la maman de Juliette de pas se rendre compte de la chose et par après d'essayer de faire croire qu'elle s'était pas rendue compte ou en fait moi j'étais persuadée que elle savait tout pareil que moi qu'elle s'était rendue compte des scarifications faut dire qu'elle a quand même fait deux séjours à l'hôpital Juliette donc les parents ont quand même été un petit peu alertés alors c'était pas parce qu'elle avait fait des tentatives de suicide, c'était plus parce qu'à un moment, elle avait pris trop de médicaments ou je sais pas quoi. Enfin non.
Trop de médicaments, ça peut être une tentative de suicide.
Je me rends compte là tout de suite.
Ok.
Ouais, voilà. Non, mais c'est pour te dire à quel point, à 14-15 ans, je me rendais pas compte de ce que c'était le suicide. Parce que là, en plus de 10 ans, oui, prendre trop de médicaments, c'est une tentative de suicide, effectivement.
Tu en prends vraiment beaucoup trop, oui.
Oui. Bon, bref, donc du coup, a priori, ils étaient quand même au courant qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Ouais.
Et moi, j'étais persuadée qu'au moment de son décès, elle essayait de dire à tout le monde que elle s'était rendue compte de rien, alors qu'on pouvait pas passer à côté de certains signes. Et lors de cette interview, du coup, j'ai tout remis en question et tu vois typiquement quand Aveline dit que elle a pas vu les signes chez sa fille de maigreur et de scarification, je me suis complètement trompée peut-être sur sa maman qui avait peut-être finalement rien vu.
Je sais pas après ce qui peut se passer entre une maman et sa fille, tu vois, mais en tout cas, moi, du côté du père, il y a un truc où à un moment donné, le rapport au corps change avec tes parents et qu'en fait, tu te balades plus à poil comme quand t'avais 8 ans, tu vois, et tu vois plus, toi, en tant que parent, tes enfants qui sont nus, tu vois. Et il peut y avoir un truc où tu veux, toi, respecter l'intimité de ton adolescente ou de ton adolescent et donc de ne plus avoir le corps face à lui. Les ados, ils ont tendance à porter des trucs très larges. Enfin, tu vois, si tu t'as pas forcément en permanence ton enfant qui est même en maillot de bain sous le nez, quoi.
Ouais,
tu vois.
Ouais. Bon, c'était pas du coup pour elle, c'était pas une question de maigreur, mais plutôt les scarifications. Effectivement, elle mettait tout le temps des pulls très longs et en fait, on s'en rendait pas compte.
Ouais, et puis il y a plein de façons de masquer des scarifications. Si t'es un peu malin, tu peux le faire à plein d'endroits où jamais personne les verra, quoi. Tu vois.
Ouais. Mais je lui en voulais aussi à sa maman parce que du coup il y avait que moi comme il y avait plus que moi pour savoir des choses.
Tu veux dire
après son décès, j'ai été beaucoup beaucoup sollicitée par sa maman pour savoir des choses.
C'était pas ton rôle.
Sauf que c'était hyper dur parce que moi il fallait que j'apprenne à sa mère des choses même sexuelle ou c'était pas à moi de le faire quoi. Enfin, et le truc c'est que je voyais qu'elle mettait la faute sur moi.
Quoi?
Un petit peu. En tout cas, moi j'avais l'impression à ce moment-là que. Ouais, je l'ai vécu comme ça. J'ai eu l'impression que du coup. Enfin, parce que quand je lui disais des choses qui lui plaisaient pas, soit elle me disait que c'était faux. Elle était complètement dans le déni aussi en fait. Et peut-être qu'elle a pas voulu voir. Enfin, donc c'est pour ça que cette interview de Aveline, elle m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que moi qui ai été très, très, très énervée contre elle pendant très longtemps, et encore maintenant en fait, pour plein de choses, notamment truc là qu'elle m'a fait vivre où je devais lui expliquer, enfin, je vais lui dire la vérité.
La vérité, ce que tu connaissais en tout cas.
Enfin, ce que je savais de tout ça, quoi. Bref, et donc, ouais, c'est ça. C'est, je me suis rendu compte grâce à l'interview que potentiellement, en fait, elle était complètement dans le déni ou que, en fait, peut-être qu'elle savait pas du tout. Moi, juste ce que je voyais de mon côté, c'était une Juliette qui me disait « Je peux pas parler à ma mère. De toute façon, elle comprend rien. À chaque fois que j'essaye de lui parler, ça va pas. » Mais en fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte que c'est tout simplement l'adolescence. Que ce soit ce sujet-là, enfin ces sujets ou d'autres, c'est juste l'adolescence. On n'arrive pas à parler à ses parents. À chaque fois qu'on commence une discussion, ça part en vrille. Non, mais...
C'est pas obligé, mais...
Pas tous, hein.
En fait, oui, mais je comprends que tu dis ça. Mais c'est juste que je crois qu'il y a pas mal de parents et peut-être qu'on peut... Enfin, c'est peut-être l'occasion de parler de ça. Il y a pas mal de parents qui ont du mal à voir leurs enfants grandir et avoir ce cap à un moment donné où bah, ils finissent par avoir 14-15 ans. Et en fait, avoir un enfant de 14-15 ans, c'est pas du tout la même chose que d'avoir un enfant de 10 ans, quoi.
Ouais.
Et où il y a des sujets qui viennent s'ouvrir dans sa vie à un moment donné, dans la vie de ton enfant, où si tu n'y es pas préparé, ça peut te faire bizarre, quoi. Tu vois, notamment tous les sujets de sexualité, etc.
Ouais.
Si tu n'es pas suffisamment ouvert à recevoir des choses, tu peux les prendre, tu peux les réceptionner très mal. Et il suffit que ton ado vienne te mettre à un moment donné juste une petite info comme ça pour voir comment tu vas le prendre.
Ouais.
Et si t'es pas prêt, si t'es dans ta vie, si t'es occupé à faire autre chose à ce moment-là et si t'es pas en pleine ouverture, si tu le prends mal, en fait, la porte se ferme et ça peut être très compliqué, quoi.
Et ce truc-là, il est d'autant plus vrai que Juliette, donc, elle avait 14 ans, j'en avais 15. Pourquoi ? Parce qu'elle a sauté une classe. Et que, en plus, physiquement, elle paraissait beaucoup plus âgée que ce qu'elle était réellement. Et je pense, effectivement, ce que tu dis est sans doute vrai.
J'en sais rien, en tout cas, je parle de mon expérience à moi, où j'ai vu mes filles faire des tentatives à un moment donné, tu vois, où tu te rends compte après coup que, ok, c'était une façon comme une autre de venir introduire le sujet, quoi, tu vois.
Mais ça m'étonnerait pas parce que elle réagisse, donc sa maman, quand... elle voyait, je sais pas, que Juliette était pas très bien. Elle l'emmenait faire les magasins.
Ah.
En fait, c'est pas ça. Bref. Donc
c'est une façon comme une autre de régler les problèmes.
Mais du coup, enfin, tu vois, et c'est là que, au début du podcast, je disais, si des parents vont écouter, il y aura peut-être des clés. C'est que, je sais pas, à un moment, faut. Peut-être se poser la question.
Les parents font tous.
Mais est-ce qu'ils peuvent
c'est
bien sûr.
Peut-être ce que tu as compris avec l'interview d'Aveline, c'est qu'en fait, les parents font toujours du mieux qu'ils peuvent. En fait. Et c'est sûr que tu peux. Je comprends que toi, dans ta position, tu puisses blâmer la mère de Juliette.
Oui, en fait, c'est ça.
Parce que tu as tout pris sur le dos, ce qu'elle aurait dû prendre, en fait, globalement, ce qu'elle aurait dû prendre, elle, et quand on ne parle pas de son père.
Ou que personne n'aurait dû prendre.
En tant que parent, ça peut être un truc à un moment donné de prendre la responsabilité toi-même de ce que tes enfants sont en train de vivre, tu vois, plutôt que de le laisser sur le dos
de
sa meilleure amie, quoi, tu vois.
Mais elle s'en rendait pas compte, elle savait pas.
Ouais.
Et je pense que pour elle, à ce moment-là, aller faire les magasins, c'était lui changer les idées.
Exactement.
Non, mais. Et donc, pour elle, c'était une bonne manière de faire les choses. Et Juliette venait me voir en me disant « Mais elle m'a encore amené faire les magasins, je ne peux pas parler avec elle, quoi. » Donc,
ce qu'elle aurait voulu, c'est peut-être se retrouver dans une pièce avec un psy et de pouvoir discuter ensemble, quoi, tu vois. Peut-être.
Ouais, mais en fait, je pense qu'elle a tellement tenté, tu vois, qu'au bout d'un moment, elle allait de temps en temps voir une psy, mais elle ne voulait plus aller la voir. Elle voulait plus faire de tentatives, tu vois, de discussions avec ses sœurs ou ses parents. Et elle s'est complètement renfermée. Et c'était plus qu'un problème avec elle-même, en fait. Donc,
et avec toi.
Et avec moi, qui savait tout ça, quoi.
C'est quoi ton rapport à la mort aujourd'hui, à 23 ans, après avoir vécu tout ça? Ou ton rapport à la vie?
Je sais pas.
Ouais. On en parlait un petit peu sur Discord.
rapport à la mort, comme ça, je dirais que j'ai pas trop peur. Et que, par exemple, je suis en couple depuis 4 ans et demi, que je lui souhaite pas du tout, et moi non plus, mais que s'il venait à décéder, je gérerais, quoi. Comme j'ai géré, déjà. Mais à la fois, je suis beaucoup moins forte qu'à cette période-là.
Et moins donc, forte ou plus ouverte à tes émotions? C'est pas pareil, hein?
Ouais, peut-être.
Et puis ouais, ça veut rien dire, moins
probablement.
Forte. Probablement. Je crois pas que c'est pas parce que... À mon sens, hein, c'est pas parce que tu te fous dans le déni que t'es fort. Hein. C'est juste, ça va venir...
Ouais.
Tu vas venir le prendre en pleine gueule en retour à un moment ou à un autre, quoi.
Bah, en tout cas, sur le moment, j'ai été forte. J'ai géré. Le soir, dans mon lit, je pleurais un peu. Enfin, voilà, je pleurais forcément, mais... non, mais franchement, je pense que j'ai réussi à faire un deuil quand même assez bien. Enfin, ou alors peut-être que ça va encore me tomber sur la gueule plus tard, mais...
Non, t'as l'air d'être...
Je crois pas, hein.
Ça a l'air d'aller,
ça
là.
Ça a l'air d'aller, ouais.
Et en plus, je trouve ça cool parce que tu vois, pour moi, là, t'es forte. C'est-à-dire que tu viens là, tu viens parler,
oui.
Tu viens pleurer quand l'émotion vient. Et en fait, pour moi, c'est ça, la vraie force, quoi. Ok, il y a la tristesse qui arrive.
Ouais, bah, en fait... Je dis moins forte parce que tu vois, tu me demandes mon rapport à la vie et à la mort. Par exemple, mon rapport à la vie. Aujourd'hui, je suis plus fébrile, plus sensible. Je serais plus capable de tomber en dépression ou des choses comme ça. Alors qu'avant, quelques années après son décès, pour moi, il fallait croquer la vie à pleines dents, il fallait en profiter. Il y a vraiment eu un switch à un moment. Et je sais quel est ce switch. C'est que les années après son décès, je vivais avec elle. Elle était en moi, je vivais pour elle tout le temps. Je pensais tout le temps à elle.
Tu vivais pour elle ou avec elle? C'est pas pareil. Hein. Vivre pour elle, ça veut dire que quelque part, tu vivais pas pour toi. Vivre avec elle, ça peut être « Ok, elle était à côté de moi et c'était cool ».
Ouais, je sais pas. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des choix à l'encontre de ce, moi. Ouais, de ce que je voulais.
De ce dont t'avais envie, toi.
Ouais.
Et en te disant, non, mais c'est ce que Juliette aurait voulu.
Et à la fois, ça coïncide parfaitement avec ce moment où j'étais plus dans cette dynamique-là. C'est un moment où je suis allée voir une psychiatre. Et que je crois que c'est au premier rendez-vous, je lui ai dit, j'ai l'impression d'être une poupée à qui on dit de faire des choses, mais que moi, j'ai pas vraiment, que je ne m'écoute pas. Donc peut-être que je vivais pour elle et que je m'écoutais pas vraiment, je sais pas.
Tu veux dire que t'avais plus de libre arbitre, c'est ça? C'était que
non,
ou c'était quelque part, tu faisais ce que Juliette... Tu penses ce que tu faisais ce que Juliette pensait que tu devrais faire?
En fait, je pense que c'est plus relié à ma mère. Je faisais beaucoup ce que ma mère.
Oh oui.
Mais du coup, ouais. Bah voilà, je sais pas du coup si.
Ça c'est pour moi ça c'est un vrai c'est un sujet de la vingtaine. Tu vois,
ouais,
c'est-à-dire
okay
à un moment donné, enfin de la vingtaine, de l'adolescence slash de la vingtaine, c'est-à-dire c'est quoi tes vraies envies toi en tant qu'être humain à part entière qui n'est pas l'enfant de tes parents, quoi, tu vois.
Ouais, ouais. Non, mais voilà, je faisais pas des choses qu'elle aurait voulu faire, parce que typiquement, elle aurait voulu être pilote d'avion de ligne, et en fait, je vais pas du tout aller là-dedans. Ouais. Par contre, je me disais très souvent, ça l'aurait rendue fière. Là, elle doit être fière de moi. Enfin, voilà. Je pensais toujours à ce qu'elle pouvait penser de moi au moment où je faisais les choses, quoi. Donc, je vivais tout le temps avec, en me demandant ce qu'elle pourrait penser de cet acte, quand même.
Ok.
Et donc, j'ai eu un switch et j'ai eu l'impression de fermer complètement le livre Juliette. Et en fait, le livre s'est fermé un tout petit peu plus tard. Et donc depuis, sans elle et sans se poser la question tout le temps de qu'est-ce qu'elle penserait, j'ai l'impression de plus forcément avoir de sens à ma vie. Enfin, ça a été très bizarre J'avais l'impression de plus avoir de ligne directrice, quoi. Parce que d'habitude, ma ligne directrice, c'était... Elle pensait de ce que je faisais, enfin, tu vois. Donc, ouais. Donc, qui je suis aujourd'hui avec tout ça, moi, j'ai l'impression d'être... d'être quand même beaucoup moins forte qu'avant, quoi. D'être, ouais, beaucoup plus sensible, de plus avoir de sens à ma vie, et à la fois sur le sujet de la mort, par exemple, je sens que ça peut pas forcément trop m'atteindre. Enfin, si des membres de ma famille décédaient, si, mais le reste... Enfin, c'est... En fait, il y a cette limite...
T'as le droit de dire ça, hein, tu sais. Ouais. Je sens que t'es en train de t'essayer de te justifier là, mais c'est
ouais.
Ok, hein.
Ouais.
Y a pas de problème.
Bah voilà.
T'as le droit de dire ça et de ressentir ça, et c'est cool, hein. T'es pas obligé de venir t'expliquer.
Ouais. Bah tout ce qui est en dessous du statut de meilleur ami ou de petite amie, ça me fait pas grand chose.
Ok.
Voilà. Bah c'est cool. Comme ça je.
Bah ouais.
Enfin.
Et en fait, le sens de ta vie, t'as 23 ans, tu vois. Donc, pour moi, c'est en plein dans... C'est justement le moment de se poser ce genre de questions,
oui.
Tu vois.
Bah oui, oui.
Donc, t'as bien raison.
J'ai fait le podcast. J'ai,
ah, tu l'as
suivi. Ouais.
Trop bien.
Trouver
sa raison d'être, donc, ouais. Que je t'avais suggéré de faire, ou qui est 30 jours d'écriture, où il y a tous les jours des questions un peu...
Ouais.
Un peu deep, quoi, tu vois, sur lesquelles tu peux réfléchir, qui est cool. Ça t'a aidé ou pas?
Certaines plus deep que d'autres.
Oui.
Je ne l'ai pas fait pendant 30 jours de suite, parce ouais. qu'il y a eu aussi une période où je ne sentais pas. Mm. Ça m'a beaucoup aidée, ouais. Mm. C'est vraiment...
c'est puissant, hein, ce questionnaire, c'est incroyable. Hein.
Oui, les personnes qui ne l'ont pas fait, faites-le.
En tout cas, si vous cherchez un peu... Si vous... J'ai l'impression que tu étais un peu dans un...
Ouais, mais même si on ne cherche pas, je crois.
Ah ouais, t'as raison.
Ça apporte quand même des questions...
Des questions incroyables.
Ouais. Non, c'est très cool.
Ah, merci. C'est cool.
Du coup, oui, non, mais le sens à ma vie, bien sûr, j'ai le temps de le trouver. Hein. Surtout que je suis même pas sûre qu'il y en ait vraiment un.
T'es sûre?
Bah oui, il n'y a pas un sens à ma vie.
Non, il n'y en a pas qu'un.
Ouais, voilà. Mmh. Je la crée comme j'ai envie de la créer. Mais c'est... Du coup, c'est quand même un peu... Voilà, tricky de passer de moi rempli de quelqu'un tout le temps... Et moi, complètement vide, avec pas de...
Avec jusque du toit.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est pas vide,
et
si
c'est...
je puis me permettre.
Bah, j'ai encore du mal à me sentir pleine de moi.
Oh.
Un peu.
Ok.
Mais, et d'ailleurs, j'ai eu une période où, quand je me regardais dans le miroir, je ne savais pas qui j'étais. C'est, ouais, très bizarre.
Ok. Mm. Bon, et tu bosses là-dessus en thérapie, alors, c'est ça?
Pas encore.
Ok.
Ouais.
Non, tu bosses en thérapie, en tout cas.
Mais je bosse en thérapie, ouais, sur plein
oui,
de sujets.
Ouais. C'est une vie, ça s'arrête jamais, tu sais.
Oui, voilà. J'ai le temps.
Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a un sujet dont t'as pas aimé parler? Est-ce qu'il y a un sujet dont je t'ai pas, sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler?
Je regarde mon petit carnet sur lequel j'ai écrit.
T'as écrit plein de trucs.
Non, bah écoute, tu vois, j'avais pensé à un fil conducteur qui n'a pas du tout été celui, tu vois.
Ah bah tu m'as laissé diriger, j'y suis allée. Hein.
Non, mais très bien. J'ai l'impression quand même qu'on n'a pas beaucoup parlé d'aronnerie, finalement.
Mm-hmm.
Mais à la fois...
On en a parlé, hein.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais aimé parler?
Ah non.
En sujet... Sur le sujet de la paternité, de la parentalité?
Pas forcément.
Hmm. Je sais pas, t'as le droit. Hein.
Non, pas forcément.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'on n'a pas beaucoup parlé de daronnerie?
Bah, j'ai pas beaucoup... Enfin, bon, j'ai plus parlé de moi et de ma meilleure amie que...
Alors, c'était le concept.
De sa daronne. Mais ouais, c'était le concept.
C'est le concept pour moi, c'était vraiment le concept de t'entendre réagir à propos du podcast d'Aveline.
Ouais.
De voir aussi Pour moi, c'est à ça que ça sert les podcasts. Ça sert à venir regarder ce qui se passe de l'autre côté, dans d'autres pompes que les tiennes, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de faire avec tous mes podcasts, d'une manière générale. C'est juste d'ouvrir des portes où tu crois qu'à un moment donné, c'est toi qui as raison, alors que, oh putain, quelqu'un d'autre peut vivre le truc de façon complètement différente.
Je pense que j'ai un sujet.
Ouais.
C'est qu'en fait, depuis son décès, je me suis dit, plus tard, j'aimerais aider les jeunes. Mmh. Et en fait, c'est relou parce que je sais pas comment aider les jeunes.
Ok. Bah là, à part
leur, mais en fait, à part leur dire, c'est débile, vous suicidez pas, ça va rendre toujours tout le monde malheureux. Non, mais tu vois, je sais pas quoi dire parce que je sais que cette période-là, elle est tellement dure et qu'on n'a pas envie de parler à ses parents et que c'est dur de parler à un professionnel. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a pas trop d'échappatoire à ça.
Il y a des lignes téléphoniques.
Oui.
Dont je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
Merci d'en parler.
Des gens qui peuvent tout simplement vous écouter, que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si je ne me trompe pas, et qui sont spécialisés, qui sont là pour vous écouter. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas des darons, des daronnes qui sont à votre écoute et qui peuvent vous écouter, bah, aujourd'hui, il y a cette possibilité-là de pouvoir... passer des coups de fil à des gens et c'est des parfaits inconnus, ils vous connaissent pas, ils vont pas vous juger, ils vont être là pour vous écouter totalement. Si vous sentez que vous êtes mal et que vous avez besoin de causer à quelqu'un, c'est une façon comme une autre de venir décharger un petit peu, plutôt que de venir, venir mettre dans le petit sac à dos de votre meilleur ami des trucs qui sont peut-être trop lourds pour elle.
Il faut passer ce cap-là, pas avoir honte aussi. Moi, je l'ai vécu il y a quelques temps. D'avoir honte d'avoir des pensées suicidaires. Bah du coup, oui, forcément, j'en ai hyper honte. Faut pas en avoir honte. Et il faut en parler. Parce que c'est le pile poil le moment où on peut faire quelque chose. Et je pense que ce que je dirais aussi, c'est que le temps arrange beaucoup. Moi, quand j'étais adolescente, je pensais que je serais jamais heureuse. Et j'ai été heureuse. Et je suis heureuse. Non, mais voilà, et il faut avoir confiance en la vie. L'adolescence, c'est une période difficile et j'ai beaucoup étudié, du coup, après la psychologie des jeunes adultes, la psychiatrie, les choses qui se passent à ce moment-là et à quel point le cerveau se modifie à cet âge-là. Et
c'est quelque chose. C'est le moment où le cerveau explose, finalement.
Exactement, et c'est même quelque chose de physiologique, en fait.
C'est nécessaire.
Juste que le cortex préfrontal est juste pas adapté trop à cet âge-là, à tout ce qui se passe. Donc il faut, à cet âge-là, se dire que c'est difficile parce qu'on se sent mature. C'est difficile de s'avouer qu'on n'est pas mature et d'attendre que le temps fasse les choses. Mais... Et c'est trop dur quand on est très, très malheureux parce qu'on a envie que la souffrance, elle s'arrête là tout de suite. Donc, c'est ce truc-là où moi, je sais pas comment aider les gens
à pas souffrir.
Ouais.
Ouais, et en même temps, c'est bien de souffrir, tu vois. Ça dépend jusqu'à quel point tu te fais souffrir. Souffrir, ça fait aussi partie d'un process qui permet d'aller de « je vais pas bien » à « je vais bien ».
Ouais.
Et après, il faut, quand tu vas bien, te dire « putain, je vais bien, c'est cool,
c'est
je vais
ça.
Bien ».
Il y a toujours du beau temps derrière la pluie, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Bah, tu vois, en parlant comme ça, c'est aussi une façon d'aider les gens.
Ouais, parce que vraiment, je pensais pas qu'il y aurait du beau temps après ma pluie, après cet orage.
Ouais.
Et il y en a eu vraiment
c'est
beaucoup.
C'est pas un orage, c'est une tempête, c'est un truc énorme, quoi.
Et il y en a eu vraiment. Un jour, je me suis dit, là, je suis en paix et je suis heureuse. C'est fou quand même.
Et c'est marrant parce que, en fait, t'as une émotion là qui vient. Peut-être que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils pourraient mal l'interpréter. Pourquoi t'as l'émotion qui monte là? Pourquoi t'as la tristesse? Pourquoi t'as des pleurs qui montent là?
Parce que je suis contente d'avoir vécu la joie.
C'est des larmes de joie.
Je suis fière de moi d'avoir su surpasser toute cette tristesse. Voilà.
Bravo,
merci.
C'est très précieux, tu sais, ce que tu viens partager là. Merci beaucoup.
Merci à toi de me donner
avec grand plaisir. Merci d'être venu. Et je te souhaite une super vie.
Oh, merci beaucoup, toi aussi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.